Morissette, Ida. François Bertrand était un marchand de Joliette en 1800. Il pouvait avoir 50 à 55 ans. Ce n'était pas le plus bel homme de l'endroit, comme mon ami François. Petit, trapu, il avait une grosse tête, il était énorme. Des yeux croches, la bouche fendue jusqu'aux oreilles, des cheveux grisonnants, droits comme des clous, et une grande barbe blanche. Comme il avait la barbe beaucoup plus blanche que les cheveux, et mauvaise langue, prétendait qu'il avait plus travaillé des mâchoires que de la tête. François Bertrand naquit à Sainte-Julienne. Son père était pauvre, un pauvre cultivateur qui avait élevé une grosse famille avec un petit lopin de terre grand comme mon nez. C'est dire s'il était travailleur. Debout avec sa femme, Francine Lorrain, avant le lever du soleil, ils travaillaient tous les deux comme des mercenaires jusqu'à très tard dans la veillée. Et au fur et à mesure que les enfants grandissaient, on leur trouvait de l'ouvrage. Ils aidaient leurs parents dans les divers travaux qu'ils avaient à faire. Disons que cette famille était heureuse malgré sa grande pauvreté. Augustin Bertrand et Franchine Lorrain étaient de braves catholiques pratiquant la religion. Ils levèrent leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Mon ami François était le 17e enfant de cette brave famille. Il en avait encore un régiment par derrière lui. Pauvre comme Augustin Bertrand l'était, il est facile de comprendre que l'éducation de ses enfants fut négligée. Je dirais de suite que pas un ne connut le chemin de l'école pour y avoir été. Il les envoyait au catéchisme quand venait le temps de leur première communion et c'était tout. François, mon ami, était le plus intelligent comme le plus beau de la famille. Dès qu'il eut atteint sa 10e année, il résolut de s'instruire. Ne pouvant prendre un instant sur les heures de travail, il était forcé d'étudier la nuit. Et il réussit ainsi à apprendre à lire et à écrire. Lorsqu'il eut atteint sa 20e année, il vint s'installer à Joliette. Il entra comme commis dans un magasin de l'endroit et par son travail et son énergie, il trouva au bout d'une dizaine d'années le moyen d'ouvrir un magasin à son compte. Il avait 30 ans et il se décida à prendre femme. On croira peut-être qu'il eut des difficultés, mais qu'on se détrompe. En 8 jours, François avait fait la connaissance d'une jeune fille, l'avait demandée en mariage, l'avaient conduite à l'église où un prêtre les avait unis. Cette jeune fille se nommait Marie Lanframboise. Elle avait 25 ans, était grande, sèche, avait une bonne figure, quelque peu jolie en général. Le couple était assorti. Le commerce prospérait. Marie aidait son époux du mieux qu'elle pouvait. Et cela exemptait un employé à payer. Et à la fin de l'année, la naissance d'une petite fille vint combler de joie et de bonheur ce couple. La petite fut baptisée sous le nom d'Ida. Pourquoi Ida au lieu de Marie comme sa mère ou Francine comme sa grand-mère? On n'a jamais pu le savoir au juste. Quelques malins prétendent que mon ami François lisait des romans et qu'il a rencontré un jour le nom d'Ida dans un de ses livres. Il jura que si jamais Dieu lui donnait une fille, il lui donnerait ce nom. La chose arriva comme il l'avait décidé. Ida grandit, choyée, dorlotée par son père et par sa mère. Ce pauvre François avait connu les privations. Il savait, pour y avoir passé lui-même, ce que souffre l'enfant du pauvre. Et il prit tous les moyens pour épargner à sa fille les misères qu'il avait endurées. Elle fut élevée avec toute la délicatesse possible. Le commerce allait toujours de mieux en mieux. François fit faire un cours d'études à sa fille afin, disait-il, d'en faire une demoiselle. Et au moment où commence ce récit, Ida peut avoir une vingtaine d'années. Je surprendrai probablement mes lecteurs en leur disant que la petite n'était pas laide du tout, au risque de ne pas être crue de quelques-unes de mes lectrices. Je dirais même qu'elle était jolie. La chose peut fort bien arriver, disons. N'a-t-on pas vu un père et une mère laides, affreusement laids même, avoir de jolis enfants? Pour faire le portrait fidèle d'une jeune fille, il me faudrait employer les termes des grands romanciers. Vous savez la ritournelle en question. Une taille élancée, svelte, je ne sais trop quoi, une figure de Madone peinte par un grand artiste, les yeux couleur de jais, les dents ressemblant à 32 perles, ainsi de suite. Non, moi, je vous dirais tout simplement que Ida était une belle grande brune qui faisait tourner la tête de tous les garçons et à qui elle tournait elle-même pour regarder les garçons. Dans ce temps-là, c'était comme à présent. Les jeunes filles se laissaient regarder par les garçons. Et les regardait aussi. Mais suffit, je pourrais me faire gronder par quelques bonnes mamans qui ne veulent pas admettre que de leur temps, les jeunes filles n'étaient pas plus sages que celles d'aujourd'hui. La mode d'embrasser les garçons entre deux portes quand on veut les reconduire après la veillée n'était pas établie, paraît-il. Plusieurs autres manières de faire l'amour en usage aujourd'hui étaient méconnues dans ce temps-là. Mais passons. Ida, à 20 ans, aimait de tout son cœur un jeune homme de Violette. Elle l'aimait même depuis plus d'une couple d'années. Comment avait-elle fait la connaissance de ce jeune homme? Oh, de la manière la plus simple. Vous savez ou vous ne savez pas qu'entre jeunes filles, on se rend de petits services. Passe-moi ton frère et je te passerai le mien. Ida ne pouvait donner son frère pour la bonne raison qu'elle était enfant unique de François Bertrand et de Marie la Framboise. Elle n'en avait pas. Mais elle avait rencontré dans Albertine Brin d'Amour une amie compatissante qui lui avait passé le sien. Alfred Brin d'Amour avait 20 ans et Ida Bertrand 18 lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois. La connaissance se fit vite. L'on en vint bientôt aux déclarations d'amour. Ils s'aimèrent bien cordialement, sans souci de l'avenir. Madame Bertrand disait qu'à 18 ans, une fille est trop jeune pour s'amouracher d'un garçon. Elle ajoutait que ce ne serait pas elle qui permettra à sa fille de laisser fréquenter un jeune homme avant 22 à 25 ans. Il est bon de rappeler que Madame Bertrand avait 25 ans quand elle avait épousé François. La surveillance dont Ida était environnée de la part de sa mère devait naturellement éloigner d'elle ses admirateurs. Mais on connaît mal les jeunes filles si on s'imagine qu'elles n'ont pas un moyen de satisfaire leurs parents tout en les trompant. Madame Bertrand n'aurait pas permis à sa jeune fille et à un jeune homme de fréquenter sa fille à 18 ans. Mais pouvait-elle trouver à redire à ce qu'Albertine Brin d'Amour vint à la maison avec son frère Alfred? Évidemment non. Or, vous connaissez le tour. Une petite promenade n'a que pour faire du bien. Albertine et son frère se rendent à la demeure de Bertrand. Albertine demande à la mère d'Ida de permettre à sa fille de se promener avec elle. Il n'y a pas d'inconvénient à laisser sortir deux jeunes filles avec un jeune homme. La permission est accordée. On sort. Oh, quelle surprise! À peine est-on rendu au premier coin qu'on fait la rencontre d'un ami d'Alfred. Or, comme cet ami connaît Albertine, cette dernière avance de deux pas et voici deux couples qui se promènent. Il est bon de savoir que la chose est arrangée d'avance et que la surprise n'est que pour la forme. Il y avait 2 ans que Alfred et Ida se connaissaient. La question de leur mariage avait été discutée entre eux, mais monsieur et madame Bertrand n'en savaient rien. Les deux amoureux auraient pu continuer leur même manège longtemps encore, si ce n'eût été cette misérable manie de s'embrasser entre les deux portes lorsqu'Alfred partait. Et je dois dire qu'Alfred allait parfois seul chez les Bertrand et qu'on le reconduisait généralement jusqu'à la porte. Or, une fois, au moment où nos deux tourtereaux allaient se souhaiter bonsoir, à leur manière, la porte s'ouvrit et François les surprit bec à bec. On se fera facilement une idée de l'affreuse position dans laquelle se trouvaient Alfred et Ida. Bertrand lui-même ne savait que dire. Ce fut lui, cependant, qui parla le premier. Ida, lui dit-il, monte à ta chambre. Mais la jeune fille ne se le fit point répéter et se sauva prestement dans sa chambre. Et quand Bertrand se retourna pour parler à Alfred, ce dernier, jugeant que le moment d'une explication n'était pas propice, avait décampé. Le père d'Ida était plus surpris que fâché de ce qu'il venait de voir. Il connaissait bien la famille Brindamour. Il savait que, quoique Alfred ne fût pas riche, il avait une bonne position. Il était teneur de livres dans un magasin de l'endroit. Il trouvait qu'un mariage entre ce jeune homme et Ida était tout à fait convenable. Et ce fut presque en riant qu'il aborda son épouse et lui raconta ce qu'il venait de voir. Madame Bertrand jeta les hauts cris et se mit à se lamenter sur le sort des jeunes filles qui se déshonoraient leurs parents par leur mauvaise conduite. Mais je vais l'enfermer, s'écria-t-elle, et j'assurerai ainsi que pareille chose ne se produira plus. Ta ta ta, dit François, plus tu la contrarieras, plus elle te jouera des tours. Sais-tu ce qu'il vaut mieux à faire? Eh bien, puisqu'ils s'aiment, c'est de les faire marier. Marier, Ida se marier. Mais elle n'a que 20 ans. Et j'ai toujours dit qu'elle ne se marierait pas avant 22 ou 25 ans. Ben, tu l'as trop dit, Marie. Et c'est pour cela qu'elle s'est cachée de toi. Et la chose fut décidée. Le lendemain soir, Alfred, que François Bertrand avait mandé près de lui, déclara son amour pour la jeune femme, fille, et son intention, bien arrêtée, de l'épouser le plus tôt possible. Dans ce cas-là, avait répondu François, annoncez vous-même votre mariage à votre futur, et dans un mois, la noce. Ida fut bien surprise de trouver Alfred dans le salon. Et sa surprise fut plus grande encore lorsqu'il lui annonça leur prochain mariage. Je n'ai pas pris part à la noce, mais on m'a dit qu'elle avait été bien belle.